100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, l'Espagne abuse des contrats précaires et se fait tirer les oreilles par la Commission européenne. Madrid a dû promettre de réformer son marché du travail d'ici l'an prochain pour pouvoir bénéficier des fonds du plan de relance européen de 750 milliards d'euros destinés à reconstruire une économie plus numérique et plus écologique. C'est un gros enjeu pour le pays qui compte sur une dotation de 140 milliards d'euros. En Espagne, un tiers des emplois sont des contrats temporaires. C'est un record en Europe et c'est un reportage à Séville de Frédéric Lebel.
En plein centre-ville, l'agence pour l'emploi est nichée à l'ombre, dans une petite ruelle. Covid oblige, les candidats attendent à l'extérieur. Johanna, 52 ans, cherche sans succès un emploi depuis 3 ans.
Ce ne sont que des contrats courts, avec peu d'heures, mal rémunérés, et qui ne te permettent pas de te projeter dans le futur. Nous, on aurait besoin de stabilité dans l'emploi, et on ne l'a pas. Moi, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas de formation, je n'ai qu'un seul métier, téléopératrice, aujourd'hui. Lui, plus personne ne m'appelle.
Des femmes de plus de 45 ans, presque un double handicap dans un pays qui affiche un taux de chômage de 15,9%. Katharina est experte judiciaire. Elle n'est jamais très longtemps au chômage, nous explique-t-elle, mais elle doit constamment changer d'employeur.
Oui, je suis stressée, je suis angoissée parce que là, je suis au chômage. Je ne sais pas ce que je vais retrouver, où est-ce que je vais aller. Mais je considère que j'ai de la chance parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout de travail, qui n'ont rien du tout. Par exemple, mon fils, qui est ingénieur chimiste, il a dû partir pour Lisbonne parce qu'il ne trouvait rien. Ici, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien du tout.
L'Andalousie est presque un concentré d'Espagne. On y trouve très peu d'industrie et une économie qui repose essentiellement sur des secteurs tels que l'hôtellerie ou l'agriculture, où le travail saisonnier est roi. Si l'on ajoute au tableau la pandémie qui a fait basculer dans le chômage 1,5 million de personnes, le tableau est sombre, notamment pour les jeunes. Carlos a 24 ans. Il vient d'être licencié après avoir travaillé 1 an pour une société informatique qui travaillait dans le secteur de la brasserie.
Para los jóvenes, no.
Le marché du travail est très mauvais, surtout pour les jeunes. Moi, j'ai beaucoup d'amis ingénieurs et plus de la moitié sont partis à l'étranger ou à Madrid plutôt qu'à Séville. Ailleurs, ils sont mieux rémunérés. Moi, comme je suis moins diplômé, je trouve du travail. Mais c'est du travail précaire, avec des contrats qu'il faut enchaîner. C'est vraiment compliqué pour nous, les jeunes.
Son avenir, il ne l'imagine ni à Séville, ni même non plus en Espagne.
Moi, dans mon cas, c'est clair, je vais faire une autre formation informatique pour compléter mon diplôme en robotique, parce que je veux pouvoir travailler à distance avec des entreprises internationales. Ici, en Espagne, de toute façon, les entreprises ne proposent que des contrats de courte durée. Elles les enchaînent jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus le faire légalement, et après, elles prennent quelqu'un d'autre.
La précarité dans le monde du travail, ce sont des contrats courts et une grande liberté qui a été donnée aux entreprises pour licencier leurs employés. Abigail a 2 enfants. Son employeur s'est séparé d'elle le jour où elle a demandé à passer à mi-temps.
C'est très facile pour les entreprises de virer leurs employés. Il suffit de payer. Ils te donnent de l'argent, donc tu te retrouves avec un chèque, mais t'es licencié. Alors évidemment, tu peux faire un recours en justice, mais après, qui a envie de travailler dans une entreprise où tu es mal vu après un procès? Donc on préfère partir parce qu'on est des êtres humains, on a une sensibilité, une famille à la maison.
Pour certains économistes, on appelle cela la fluidité du marché du travail. Au syndicat Comisiones Obreras, la commission ouvrière qui compte 1 million d'adhérents, on retrouve Sergio Santos, secrétaire pour l'emploi. Le marché du travail a changé en 2012, lorsque le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a introduit une vaste réforme. Elle autorise les licenciements collectifs sans motif économique et rend plus facile les licenciements individuels.
Ça revient moins cher parce que le montant des indemnités de licenciement a baissé. Aujourd'hui, c'est 20 jours d'indemnité par année travaillée, mais il y a un seuil maximum. On ne remonte jamais à plus de 5 années d'ancienneté. Et puis avant, les relations entre l'employé et l'entreprise étaient protégées par des conventions collectives. C'est fini. Désormais, tout se passe de manière individuelle au niveau de chaque entreprise. Et puis enfin, il y a de plus en plus de sous-traitance. C'est très facile, donc il y a de moins en moins de règles.
el que los empresarios puedan despedir.
Cette réforme, elle est née parce qu'il y a eu la crise de 2008. Mais cette loi, elle n'a pas créé d'emploi. L'emploi est revenu 5 ou 6 ans après, parce que la crise a reculé. Mais la loi a créé la précarité. Aujourd'hui, on a 35% de contrats précaires en Andalousie. Et si on parle des embauches, on est à 96% de contrats temporaires pour le mois d'avril.
Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le Premier ministre Pedro Sanchez avait promis à ses partenaires de coalition Podemos de réformer en profondeur la loi de 2012. Aujourd'hui, alors que les négociations pour cette révision législative sont toujours en cours, la pression vient de Bruxelles.
Parmi les pistes pour l'économie européenne post-Covid, la relocalisation des industries. Le Made in Poland, un gage de qualité pour les clients, passe sous silence les questions sociales de l'industrie. C'est ce que dénonce une association, l'ONG HT Responsable, qui a recueilli le témoignage de couturières à Varsovie, les précisions de Sarah Bakaloglou.
Signe de la difficulté à recueillir des témoignages, l'ONG HT Responsable a fermé la ligne d'écoute téléphonique qu'elle avait mise en place pour les couturières en Pologne, car peu de femmes ont osé appeler pour raconter leurs conditions de travail par peur de perdre leur emploi, explique l'association polonaise. Une peur sans doute accrue avec la pandémie de Covid-19. Des couturières ont eu des difficultés à recevoir leur salaire dès mars 2020 et forcées à prendre des congés non payés, étant menacées de licenciement, selon les premiers échos recueillis par la fondation HT Responsable. Mais avant la pandémie, des douzaines de femmes ont témoigné sur leurs conditions de travail dans des usines textiles polonaises. Elles décrivent des retards et des problèmes de paiement avec des salaires très bas, des contrats de travail non respectés lorsqu'il y a peu de commandes dans les ateliers, certaines sont obligées de prendre des congés non payés et quand il y a du travail, les journées peuvent durer 10-12 heures, parfois plus au lieu de 8. Les ouvrières racontent travailler 6 jours sur 7 et certaines doivent porter des couches car les pauses pour se rendre aux toilettes sont limitées, voire impossibles, le tout dans des lieux de travail peu ventilés où il fait très chaud l'été et froid en hiver, mais où il peut être impossible de boire de l'eau pour s'hydrater afin de ne pas risquer d'abîmer les vêtements. Dans ces usines textiles travaillent des couturières polonaises mais aussi des femmes ukrainiennes, note l'ONG HT Responsable, qui signent des contrats dans une langue qu'elles ne comprennent parfois pas. Selon les estimations du magazine Tegonnik Pochechny, il y aurait encore 40 000 couturières en tout en Pologne. Selon la sociologue Marta Karwatsa, si le Made in Poland est devenu un gage de qualité, les conditions de travail et de rémunération restent passées sous silence.
Les inquiétudes en Europe face à la propagation du variant Delta du Covid-19 et partout des appels à la vaccination afin d'éviter une quatrième vague. À Chypre, la campagne de vaccination s'accélère. Mais la situation n'est pas la même partout. La République de Chypre, membre de l'Union européenne, affichait mi-juin un taux de vaccination complète de 40% environ. Près de 62% pour la première dose uniquement. Mais il n'en va pas de même dans la moitié nord de l'île, sur le territoire de la République turque autoproclamée, où seuls 22% de la population était vaccinée début juin, au moment de la réouverture des points de passage entre les deux parties de l'île. C'est un reportage à Chypre de Juliette Gerbrand.
Sur une large avenue de Nicosie, légèrement en retrait de la circulation, le centre de vaccination accueille les derniers candidats de la matinée. Ils recevront une dose de Sinovac, le vaccin chinois fourni par la Turquie. Mehmet Esraik Incesoy, fonctionnaire, a pris rendez-vous il y a un mois. Pour l'instant, il est confiant dans la situation sanitaire.
On n'a pas eu trop de problèmes, même s'il n'y a pas beaucoup de vaccins. Ce qui m'inquiète plus, ce sont les gens qui viennent de l'étranger, de Turquie et du sud de Chypre. Au niveau local, je ne me fais pas trop de soucis pour la propagation du virus. Entre nous, ça va.
Alors que la campagne vaccinale a débuté dès le 21 janvier, le taux de vaccination de la partie nord de Chypre n'était que de 22% début juin. Depuis, le rythme s'est accéléré, mais l'approvisionnement a été et reste très compliqué. Aléatoire même, explique ce quinquagénaire.
Les vaccins viennent de Turquie et un peu de l'Union européenne. Et nous, on est entre leurs mains. S'ils nous en donnent assez, on sera vaccinés. Sinon, c'est comme ça. Malheureusement, les laboratoires ne nous livrent pas parce que nous ne sommes pas un État reconnu. On ne peut pas les acheter directement, même si on a l'argent.
Comme beaucoup de Chypriotes turcs, Mehmet se sent en otage d'un jeu politique depuis l'échec des négociations sur la réunification.
Si le Sud veut bien, on en a des vaccins du Sud. Mais quand ils en reçoivent 50 000, ils nous en donnent 1 500. Donc on est obligé de s'adresser à la Turquie. L'Europe n'a pas tenu les promesses qu'elle avait faites quand on a dit oui. On n'a qu'une issue possible, c'est la Turquie. Et quand on se tourne vers elle, un coup elle nous tape dessus, un coup elle nous aide.
Au marché municipal de la vieille ville, c'est l'heure de la pause, autour d'une partie de tabla. Le café chauffe sur le réchaud. Simavi Hachek blâme lui aussi la République de Chypre pour le manque de vaccins. Âgé de 70 ans, vacciné dès les premiers jours, ce patron estime que face aux réticences du Sud, les autorités ont beau jeu de vanter le soutien de la Turquie.
Mon avis, c'est que ça ne suffit pas. Les Chypriotes turcs représentent 25 à 30% de la population totale. Or, on n'a pas reçu 25% des vaccins que l'Union européenne a envoyés à la République de Chypre. Ils ne nous en ont pas donné assez. Quant à la Turquie, c'est encore autre chose. Ils sont très nombreux. Parfois, ils nous ignorent. Ou on en voit peu, parce qu'ils en ont besoin pour leur population. Mais on ne peut rien y faire.
Au siège du Conseil de l'Ordre des médecins, on voit les choses tout autrement. Au troisième étage d'un immeuble moderne, la directrice reçoit dans une grande salle ornée des portraits de ses prédécesseurs.
On nous dit que ce n'est pas possible d'acheter des vaccins parce que le nord de Chypre n'est pas un pays reconnu. Or, pour les autres médicaments ou vaccins qu'on utilise régulièrement, c'est possible. Mais pour le Covid, ils n'ont pas essayé.
Ce n'est pas le seul reproche que la docteure Özlem Gürküt fait aux autorités. À l'approche de l'été, elle s'inquiète aussi de l'assouplissement des mesures de restriction et à mi-mot critique elle aussi cette dépendance à la Turquie.
Étant donné que la population n'est pas entièrement vaccinée, je pense qu'il y a un risque à ouvrir la circulation sans mesure de quarantaine. D'autant que nous allons surtout avoir des touristes de Turquie et ils utilisent le vaccin Sinovac, qui selon l'OMS nécessite une quarantaine.
Dans beaucoup de pays, en effet, ce vaccin ne dispense ni de test PCR ni de période d'isolement. Mais c'est celui que reçoivent en grande majorité les Chypriotes turcs. Ce qu'Özlem Gürküt déplore. Elle espère par ailleurs que le taux de vaccination va augmenter rapidement, alors que les touristes arrivent pour profiter des plages parmi les plus belles de l'île.
Après le record d'abstention lors des élections régionales en France, moins de 35% des électeurs se sont déplacés pour le second tour. Daniel Vigneron du site myeurope.info s'interroge sur l'ampleur du phénomène ailleurs en Europe. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Les élections régionales sont-elles boudées par les électeurs en Europe ?
En général, les scrutins régionaux mobilisent moins la population des pays de l'Union que les scrutins nationaux. À l'exception notable de la Belgique, où, comme au Luxembourg et en Grèce, le vote est obligatoire et entraîne une participation supérieure à 90%. Cela dit, en l'absence d'obligation de vote, la Suède est également un pays de très forte participation au régional, avec près de 84% lors du dernier scrutin de 2018. Ailleurs en Europe, la participation aux élections régionales ou locales est variable. Elle se situait par exemple à un niveau très bas en Angleterre en 2018, 34%, mais en général, elle dépasse les 50%.
Vous avez des exemples, Daniel ?
En Italie, les élections régionales de septembre 2020 ont vu la participation aller de 46% dans le Veneto à 63% en Toscane. En Espagne, 72% des électeurs ont voté en mai dernier à l'élection de l'Assemblée de Madrid, un taux très supérieur à ce qu'on avait observé auparavant au Pays Basque ou en Catalogne, 53% environ.
Et alors, qu'en est-il pour les dernières élections en Allemagne ?
En mars de cette année, 64% des électeurs du Bade-Württemberg se sont déplacés et il y a quelques jours, 60% des inscrits de Saxe-Anhalt ont pris part au scrutin.
Finalement, Daniel, les Français sont ceux qui se montrent les moins concernés par les régionales.
Très nettement, si l'on regarde le scrutin qui vient de se dérouler. Mais le deuxième tour des régionales précédentes, en 2015, avait quand même vu la participation s'élever à 58%. Donc, il semble que la désaffection des électeurs va bien au-delà d'un désintérêt pour les régions et les départements.
L'abstention est une plaie spécifiquement française.
C'est indéniable, mais pourquoi ? Peut-être parce que les citoyens sont déroutés par la superposition de deux alternatives politiques. Un match droite-gauche au niveau local et un affrontement libéraux-nationaux-populistes imposé par l'élection présidentielle. Ce scrutin surdétermine désormais l'ensemble du processus démocratique et ce n'est pas un hasard s'il suscite encore la participation de trois quarts des électeurs inscrits.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Les Suisses vont pouvoir continuer de faire la leçon aux Français sur la réforme de l'orthographe cette fois. Dès 2023, les écoliers francophones suisses apprendront un français aux règles assouplies. Il s'agit de faciliter l'apprentissage en rapprochant l'oral de l'écrit. Jérémy Lanche.
La réforme de l'orthographe ne va pas changer fondamentalement la vie des quelques 2 millions de Suisses francophones. Elle pourrait épargner un certain nombre de casse-têtes à des centaines de milliers d'élèves. Casse-tête d'ailleurs gardera son trait d'union, mais pas rond-point ni ping-pong qui pourront s'écrire tout attachés. Exit aussi les accents circonflexes sur la plupart des « i » et des « u », sauf sur ceux qui permettent de distinguer deux mots comme « mur ». On fait aussi tomber un certain nombre de consonnes doubles, comme dans « interpeller » avec un « l » au lieu de « deux ». Pour les nombres, ce sera aussi plus simple, avec des tirets pour tous les chiffres composés. Une mesure de bon sens, selon la secrétaire générale de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande, Pascal Marot, et qui n'enlève rien à la richesse de la langue.
La langue, ce n'est pas l'orthographe. La langue est bien plus belle, bien plus riche que uniquement son caractère orthographe. L'orthographe est un outil au service de la langue, donc la langue restera compliquée, la langue restera intéressante et on nous reproche souvent, depuis qu'on a fait cette annonce, un nivellement par le bas. En fait, il s'agit plutôt d'un nivellement par le haut, c'est-à-dire grâce au fait de récupérer du temps, puisque l'orthographe sera plus facilement abordable, on pourra faire avec les élèves des choses bien plus intéressantes au niveau justement de la langue en général, de l'argumentation, de la lecture de textes, de poèmes, etc.
La Suisse n'a rien inventé. L'orthographe rectifiée, l'Académie française en parle depuis les années 90, mais son application est encore timide. La réforme fait aussi la promotion d'un langage plus neutre, moins genré, mais sans aller jusqu'à l'écriture inclusive ou épicène, comme l'a récemment adopté la radio-télévision suisse.
Alors on pouvait pas d'un côté vouloir proposer quelque chose de plus cohérent par rapport à l'orthographe et compliquer l'écriture. On se rappelle qu'on s'adresse là à des enfants qui entrent dans l'écrit et pour qui c'est déjà suffisamment compliqué. On voulait pas rajouter une complication, on voulait rester dans une accessibilité des textes. C'est pour ça qu'on renonce à ce marquage finalement de l'inclusivité dans l'écrit.
Si la plupart des syndicats d'enseignants saluent une réforme qui va dans le sens des élèves, certains spécialistes de la langue regrettent au contraire une forme de cancel culture arbitraire. Au lieu de donner les moyens aux élèves de dépasser un obstacle dans la langue, on préfère supprimer celui-ci, s'agace par exemple un ancien professeur et député de droite à Genève. Son parti a demandé aux différents cantons de refuser l'orthographe rectifiée, une levée de bouclier que dit comprendre Pascal Marot.
La langue, c'est pas comme la physique ou les mathématiques, quoique tout le monde a un rapport particulier au langage et à la langue et certaines personnes se sentent agressées par rapport à cette décision. Je vous rappelle que notre décision porte vraiment sur un élément pédagogique, didactique, à savoir dans les moyens d'enseignement du français et la CIP ne décide pas ou ne décrète pas du tout que toute la société doit maintenant faire cette bascule.
De fait, on parle de 2400 mots concernés par la nouvelle orthographe. Pas de quoi chambouler l'usage du français. Les partisans de la réforme rappellent d'ailleurs qu'il s'agit d'ajouter un nouvel élément à la langue et pas de lui en enlever un, puisque l'orthographe classique reste bien évidemment acceptée.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.